Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre notre invitée, la comédienne Michèle Bernier. On parle de cette pièce « Je préfère qu'on reste ensemble ». Justement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Sébastien Bordenave, bonjour.
Bonjour Philippe.
Bonjour Olivier Benkemoun.
Bonjour Philippe Vandel.
Et bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonjour Philippe.
Jean-Luc, tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et hier, actualité oblige, vous êtes intéressé à la reine Elisabeth.
Oui, enfin ben... Franchement, moi, j'aurais bien regardé autre chose, mais honnêtement, c'était compliqué. À moins de regarder Peppa Pig sur une chaîne enfant, t'avais pas trop le choix. Mais ça m'intéressait. Je me demandais ce qu'il restait à dire après 12 jours de deuil. Parce qu'honnêtement, avec tous les programmes qu'ils ont fait depuis le 8 septembre, je crois que je connais mieux la vie d'Elisabeth II que la vie de ma mère. Alors, je me suis demandé pourquoi on en avait fait autant sur la reine en France, et Pascal Praud avait une idée là-dessus.
Une séquence qui aura passionné le monde entier et fasciné la France régicide qui cherche depuis 1793 comment réparer l'exécution de Louis XVI.
Voilà.
Alors, pose le débat.
Alors régicide, c'est pas quand tu tues les gars qui s'appellent Régis, hein, c'est quand tu tues les rois. C'est pour ça qu'on est fasciné. J'ai trouvé ça bien trouvé. Je vais être très honnête, je suis moins sûr de l'image suivante. Quand Pascal décrit ce que l'on ressent en voyant cette cérémonie d'un autre temps.
Le Moyen-Âge surgit parmi des smartphones comme Godefroy de Montmirail est apparu dans le film Les Visiteurs au milieu des buildings.
Ouais, là non, Jean Reno, je vois pas le rapport. Hein. Je préfère l'histoire avec les Régis. Sur le plateau, il y avait l'historien Philippe Delorme qui a opposé poids des traditions et wokisme. Oui, on peut. Quand le wokisme s'invite dans l'histoire. Et Pascal Praud a élargi le débat aux séries télévisées.
Downton Abbey, voilà, je veux dire même, The Crown.
Et d'ailleurs, on parlait de wokisme tout à l'heure, et c'est un peu dangereux d'ailleurs que le wokisme s'insinue dans ces séries historiques.
Oui, vous avez parfaitement raison.
On voit par exemple Le Seigneur des Anneaux, là. Oui.
Pardon, je voudrais donner de leçons à personne, mais je crois que Le Seigneur des Anneaux, c'est pas une série historique.
Ah non.
A priori, les elfes et les hobbits. Il n'y en a pas eu beaucoup dans la terre du milieu qu'on appelle l'Auvergne. Hein ? Non, enfin, je crois. À la limite, des trolls sur les réseaux sociaux, mais c'est tout. Moi, si j'étais Pascal, j'inviterais plus personne en plateau. De toute façon, ils lui sont d'aucune utilité. Regardez, là, il va voir passer à l'écran une statue de Churchill. Tu sens qu'il n'a pas l'info complète sur l'histoire de cette statue, mais il se lance. Il se dit, je suis bien entouré, j'ai un historien, un spécialiste anglais qui s'appelle Simon, Gilles Leclerc, je vais lancer le machin, il y a quelqu'un qui va prendre la main. Bah, tu parles.
La fameuse statue de Winston Churchill en arrière-plan que nous voilà la fameuse statue que vous voyez de Winston Churchill, voilà. Simon qui date peut-être que vous connaissez peut-être du moment où elle a été érigée.
Voilà, la statue date du moment où elle a été érigée. On n'aura pas mieux. Pour apprendre d'autres choses intéressantes, j'ai zappé sur les chaînes info et j'ai appris que la reine, elle avait un réveil bio.
Le cornemuseur major. Alors il réveillait la reine tous les matins à 9h en jouant de la cornemuse sous sa fenêtre pendant 15 minutes.
Ça ressemble quand même à une blague, non ? Hein ? Et vous, Philippe, vous préférez avoir des bras en mousse ou pendant 70 ans, t'as un mec qui joue de la cornemuse en bas de chez toi ? Moi, je prends les bras en mousse. BFM, eux, ils étaient en permanence sur place, donc j'aime mieux vous dire qu'en 12 jours, il a fallu meubler.
La glorieuse BBC a quand même publié l'arbre généalogique des corgis de la reine.
Bon, je vous épargne l'arbre généalogique, c'était pas intéressant, il n'y avait aucun chien de Michel Drucker dedans. Par contre, parlons de la polémique de ces trois derniers jours, le Basketgate.
Ah oui, Emmanuel Macron, qu'on va voir avec des lunettes de soleil en basket, hier dans les rues de Londres, et cette image a été fortement commentée. Certains ont dit « chucking ».
Ouais, l'anglais, c'est pas son truc à Pascal. C'est pas shocking, c'est shocking. Comme la poupée Chucky. Je vous résume l'affaire, au cas où vous auriez fait une micro-sieste de 48 heures. Emmanuel Macron est arrivé la veille de la cérémonie à Londres et il s'est promené dans la rue avec des lunettes de soleil et des baskets. Gros, gros scandale. Tout le monde en a parlé. Ça a même fait un sujet dans Estelle Midi.
Il n'était pas en Bermuda, il n'était pas en espadrille, il était avec un pantalon, il était avec une veste noire.
Il est président de la
Franchement,
République.
Il est président de la République.
Le général de Gaulle aurait fait ça.
Ouais. Ça, dans n'importe quelle conversation, c'est le joker. Ça marche tout le temps. Hier, ma femme m'a demandé de débarrasser la table. Je lui dis, tu crois que le général de Gaulle, il aurait fait ça? Elle a pas moufté. Hein. Bon, pour Estelle, ça aurait pu s'arrêter là, mais l'intervenant a répliqué.
Qu'est-ce que vous en savez et comment vous pouvez me prouver que le général de Gaulle a jamais mis de basket?
Excusez-moi, vous avez déjà vu une photo du général de Gaulle en basket?
Ah non,
parce
mais
que si vous en avez une, donnez-la moi.
Moi, perso, j'ai une photo du général de Gaulle en crop top. mais je crois que vous n'êtes pas prêt. Voilà, on a dit au revoir à la reine hier. Et vous savez ce que ça signifie, hein, Philippe?
Dites.
qu'on va nous reparler de la crise. Moi, je vous le dis, on n'est pas bien.
Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoine. Merci, Jean-Luc, on vous retrouve sur la scène aux Républiques les vendredis, samedis, à partir du 8 octobre, sans crop top, d'après mes infos. Sébastien Bordenave, le programme de votre indispensable ce matin.
Alors, vous en avez peut-être chez vous ces grands trucs mous qu'on observe avec tendresse et consternation et qu'on appelle ados. Eh ben, c'est le thème de la BD du jour qui s'appelle « Dans la tête de mon ado » et on va apprendre plein de trucs sur eux.
Et j'ai la même question pour vous, Olivier Benkemoun. Votre indispensable ce matin.
On va chialer. Je vous le dis, on va chialer. On va chialer à cause d'une vieille dame qui s'appelle Lynn Renault. Et moi, elle m'a fait chialer. Le film...
Avec Danny Boone.
Exactement.
Dans un instant, Michel Bernier avec nous. On parle de sa pièce de théâtre qui vient de démarrer. Je préfère qu'on reste ensemble. C'est au Théâtre des Variétés. C'est signé Laurent Ruquier. Mais d'abord, musique. C'est le nouveau single de Slimane sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Michel Bernier.
Et bonjour, bonjour, bonjour.
Comédienne, humoriste, on peut vous voir dans une série qui cartonne, La Stagiaire, ça va revenir le 27, c'est ça?
C'est ça, 27 septembre.
On
voilà.
va en parler après. Vous étiez également la mère d'Alexia Daval dans le téléfilm de TF1 il y a deux semaines. Mais d'abord, Les Planches, j'ai démarré avec le petit théâtre de Bouvard, je vais pas tout raconter. Énorme succès, seul en scène, avec Le Démon de Midi, joué plus de 600 fois. D'après Florence Sestac, autrice de BD, je vais en parler, comme il y a Bordenave qui va venir parler de BD, on va parler de Florence Sestac.
Extraordinaire.
Et puis, ce one-man show, Vivement Demain, et une pièce jouée plus de 600 fois, ça fait 2 fois 600, Je préfère qu'on reste amis. Oui. Et votre actu, c'est donc cette pièce, Je préfère qu'on reste ensemble, pièce de Laurent Ruquier, c'est au Théâtre des Variétés qu'Olivier Sitruc, qui, si j'ose dire, a pris la place de Frédéric Diefenthal, parce qu'en quelque sorte, c'est une suite, c'est la suite de Je préfère qu'on reste amis, qui a donc été ce triomphe, pour qu'on comprenne. Qui est votre personnage, Claudine? Qui est ce couple qu'elle forme avec Valentin?
Au départ, Claudine, elle était fleuriste et meilleure amie de Valentin. Et puis, elle était en fait très amoureuse de lui, donc elle a fini par lui dire. Puis lui, il a fini par se rendre compte qu'en fait, il l'aimait aussi. Donc voilà. Et on se retrouve aujourd'hui. Donc,
ça, c'était la pièce « Je préfère qu'on reste amis ».
Exactement.
Évidemment, ils ne sont pas restés amis. C'est des antiphrases, comme souvent avec Laurent Ruquier.
Ils sont restés amis. Plus qu'amis. Voilà.
Ils sont restés plus qu'amis.
Et ils se sont même mariés.
Et ils habitent ensemble.
Et là, ils habitent ensemble. Et c'est 6 ans plus tard de ce mariage. Qu'est-ce que ce couple est devenu? Le problème, c'est que le mari était escorte. C'était son métier avant. Et donc, il ne le fait
escorte,
plus.
Escorte, c'est qu'il avait des relations tarifées avec des dames qui payaient
dames
pour passer la nuit avec lui.
Pour passer à une heure, un quart d'heure, une demi-heure, la nuit. Enfin bon, peu importe. Et donc, il avait juré que c'était fini, qu'ils se lançaient ensemble dans cette histoire de karaoké. En fait, maintenant, ils ont un karaoké. Et sauf que le karaoké, c'est très dangereux parce qu'il y a beaucoup de jolies jeunes filles qui viennent chanter.
Et le mari
est très attiré par toutes ces jolies jeunes filles.
Plus qu'attiré, il drague devant elle.
Il drague
devant elle.
Parce
que Claudine est là, elle est à la caisse, voilà, elle passe, elle fait payer les consos et elle le voit en train de dragouiller.
Voilà, et donc ça l'énerve beaucoup et elle décide de lui dire, écoute, il faut que ça s'arrête. Sauf que lui prend tout ça un peu à la légère en disant, mais c'est pas grave, c'est toi que j'aime, c'est avec toi que je suis le mieux. Et au fur et à mesure, elle comprend pas qu'il veuille pas arrêter, qu'il comprend pas sa souffrance à elle.
Il veuille pas arrêter parce qu'il va voir d'autres femmes
parce
tout,
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est volage, voilà. Il peut pas s'empêcher. C'est sa nature profonde, d'après ce qu'il dit.
Mais elle le tolère.
Elle le tolère. Et puis là, elle en peut plus. Là, elle en a marre. Et parce que Claudine, c'est un personnage assez comme ça. Elle est assez. Elle prend sur elle. Puis à un moment, c'est très féminin d'ailleurs, ça, je trouve.
J'ai appris une expression grâce à vous. LTA ou LTA, expression américaine, racontez ce que c'est.
Alors, c'est living together apart.
Habiter ensemble, mais séparément.
Voilà, c'est un espèce de concept américain, paraît-il, qui fonctionne plutôt pas mal, d'après ce que je sais. Et en fait, il lui propose ça.
Il faut le dire, ça s'applique au couple, c'est pas de la colocation.
Ah non,
c'est
non.
On est en couple, on est ensemble
en couple,
sans être ensemble.
Mais on ne vit pas ensemble. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des tas de gens qui ont testé ça et qui en ont été plutôt satisfaits.
Je me suis même demandé, j'imagine que vous en avez parlé, si Laurent Ruquier ne s'était pas inspiré du couple Jean-Paul Sartre-Simone de Beauvoir. Vous connaissez leur histoire ou pas du tout ?
Il faudra leur demander.
Dans les années 60-70, oui. Sartre propose à Beauvoir un bail, donc Simone de Beauvoir, la grande philosophe, lui aussi grand philosophe, un bail renouvelable de 2 ans.
D'accord.
Et il juge que leur amour nécessaire ne doit pas s'interdire des amours contingentes ou secondaires. C'était son terme. Et il y avait une condition, il avait aussi mis une condition, qu'elle avait acceptée. Il renouvelait le bail tous les deux ans. Ça fait fantasmer des générations de 68ards. Ne jamais se mentir et ne rien se dissimuler. Et
je pense que ça a fait souffrir aussi des générations de femmes.
Bah évidemment, parce qu'elles en sont revenues.
Oui,
les communautés où tout le monde était avec tout le monde, c'est terminé.
Et puis surtout, c'est ce qu'on dit dans la pièce, c'est qu'à un moment, c'est essayer de faire rentrer tes aventures extra-conjugales dans un cadre acceptable. C'est-à-dire qu'en fait, ça l'arrange.
Alors voilà. Le cadre, c'est assez marrant parce que le cadre, il dit, bon, alors on va prendre un règlement. Il faut trouver, enfin, le règlement, il prend sur Google un règlement de
C'est moi qui fais ça.
C'est vous,
c'est
de copropriété, vous avez raison.
C'est moi qui, à un moment, je vais essayer de le pousser dans ses retranchements, c'est-à-dire lui montrer que ce qu'il me propose est quand même un peu hallucinant. Elle va finir quand même par l'accepter, sauf que ça sera extrêmement difficile parce que lui, il ne tient pas. Quoi. En fait, il se garde toujours un dimanche soir pour être ensemble, quoi qu'il se passe. Alors, d'autres soirées dans la semaine s'il faut, mais le dimanche est sacré. Sauf qu'il déroge à la règle du dimanche. Et là, c'est plus possible.
J'adore ce que vous dites quand vous dites le règlement de copropriété. D'abord, commencer par la description des bâtiments
et la
désignation des parties communes. Et il y a tout le double sens. Alors, il faut dire que c'est très drôle.
Oui.
J'ai pas encore raconté, parce qu'en plus, il y a un twist après. Il y a des punchlines, je ne vais pas toutes les dire, parce que je veux que les gens rient quand ils iront voir. Des bouts de dialogue qui m'ont vraiment séduit. Valentin dit, mais des types, t'en as connu combien d'autres depuis qu'on est ensemble ? Claudine, aucun, c'est le premier. Ben voilà, c'est ce que je pensais. Tu parais que le premier. J'avais jamais vu les choses comme ça. Alors, il faut dire que ça démarre comme un vaudeville post-68ard, mais ça se termine comme une comédie romantique.
Ah ben complètement. Ben d'ailleurs, c'est tout le talent de Laurent Ruquier d'avoir réussi à passer justement le cap de la rencontre, parce que d'habitude, on raconte des histoires de rencontres.
Ouais.
Et là, non, on est dans une histoire de couple d'aujourd'hui, on va dire, qui se pose tellement de questions. Parce que je pense qu'on a tous envie d'une histoire d'amour qui dure longtemps. Et en même temps, on n'arrête pas de nous dire que les histoires d'amour ne durent plus. Donc, c'est un espèce de dilemme en se disant qu'est-ce qu'on fait ? On reste même si on n'est pas très heureux, mais on préfère ne pas se retrouver tout seul en vieillissant. Je pense qu'il y a un vrai questionnement là-dedans. Et que, je pense que c'est vraiment très actif. En fait, Laurent, il a écrit quelque chose de très, très intéressant et très intelligent.
C'est quoi, Michel Bernier ? On n'a même pas encore parlé de la mise en scène. Déjà comme ça,
ah oui.
Ça serait intéressant. Et la mise en scène, il y a du karaoké et il y a des chansons.
Oui.
On marque une courte pause. On parle cinéma avec Olivier Benkemoun. Michel Bernier, reste avec nous, évidemment. Culture Média, c'est ça.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Michel Bernier sur la scène du Théâtre des Variétés, je préfère qu'on reste ensemble. C'est avec Olivier Sitruc, pièce de Laurent Ruquier. Ça a démarré quand ?
On a démarré le 15, là.
Vous n'avez plus le temps d'aller au cinéma ?
Pas pour l'instant, ça va venir. Ça va
venir. Ça va venir,
voilà.
Avec Olivier Benkemoun, on va parler
pour
cinéma.
Vous.
C'est bien,
voilà.
Ça c'est bien.
Voilà,
votre indispensable, vous avez fait les courses pour elle ?
Aussi.
Voilà. Humour, une belle course. Avec Danny Mood et Lynn Renault, on a dû jamais la faire, celle-ci.
Pas encore.
Jamais.
Bon, très franchement, j'en veux très fort à Lynn Renault ce matin. Lynn Renault, 94 ans, m'a fait chialer. Voilà. Comme un minot.
Ouais.
C'est pas possible. Voilà ce qui se passe. Tu penses aller voir le dernier film de Danny Boone, te marrer, et tu te retrouves en train de pleurer à cause de Danny Boone, de Lynn Renault. Franchement. Lynn Renault, c'est que plus elle vieillit, plus elle est belle. Je sais pas si c'est son regard bleu acier, sa diction, son visage, ses rides, ses expressions, ou ce que tu projettes sur elle, tout ce qui est personnel. Elle a 94 ans. Tu sais qu'elle n'est pas éternelle. En ce moment, tu vois la reine et les obsèques de la reine partout. Tu dis, les gens ne sont pas éternels. Tu projettes, voilà. Elle, c'est la reine. C'est aussi un monument, en quelque sorte.
Quel âge vous me donnez ?
Ça, ouais. 80.
Charmeur.
Ouais, charmeur.
Trop mignon.
Alors, l'histoire. Madeleine, 92 ans, vous l'avez entendu, quitte définitivement sa jolie maison pour aller dans un EHPAD. Ce jour-là, elle appelle un taxi, son fils n'est pas là, il n'y a personne, il n'y a pas un mari, juste le taxi qui est censé l'amener à l'adresse indiquée. Mais à qui finalement elle va dire « Vous allez passer par ici, vous allez passer par là ?» Et c'est en traversant les rues de Paris qu'elle lui raconte sa vie à travers des flashbacks. Et sa vie, c'est un grand amour, juste après-guerre, un Américain qui part sans adresse mais en lui laissant un enfant. C'est ensuite un type qu'elle rencontrera et qui sera jaloux et moche avec elle, violent. Puis c'est sa vengeance qui lui coûtera très cher à une époque où il était encore impensable qu'une femme se plaigne, qu'on lui cogne dessus. Hélène Renaud, elle a ce truc de raconter une histoire en l'incarnant tellement que tu as l'impression que tout ce qu'elle vit dans le film lui est arrivé.
Le premier homme que j'embrassais, c'est Matt. C'était en septembre 44, 76 ans après. J'ai toujours le goût de ses baisers sur mes lèvres.
En plus, c'est joli. Hein.
Ah, oui. Mais là, on ne sait pas si c'est dans le film ou si c'est une interview.
Eh bien, voilà. Alors, Christian Carrion, c'est ça ou il est malin, le réalisateur ? Parce qu'il a mis des morceaux de vrais éléments biographiques qui appartiennent à Lynn Renault dans son histoire. Dans le film, Madeleine est habilleuse au théâtre. Le théâtre, bon, c'est la ville de Lynn Renault, évidemment. Dans le film, c'est Madeleine, par la force des événements, qui va se retrouver à défendre une cause importante. On connaît également l'engagement de Lynn Renault aux côtés des malades du sida. Et cet amour d'un GI, ben, Lynn Renault ne le cache pas. Après-guerre, elle a raconté à quel point elle aussi, elle avait été folle des GIs. Je la cite, « Moi, la première, on les a bien reçus. J'étais jeune et je m'en souviens. » Alors quand la fiction renvoie au réel ou le contraire, bah, c'est pas mal. Ça ouvre des portes supplémentaires lorsque vous voyez le film, je trouve. Puis Lynn Renault a fait très peu d'avant-premières, il faut le dire. Mais elle en a fait une pour le festival du film francophone d'Angoulême, de Dominique Besnéard. Elle était avec toute l'équipe, avec Danny Boone, etc. Et à la fin du film, elle a retourné la salle. Écoutez, tendez l'oreille.
Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse parce que ce film, j'y ai pleuré. J'ai eu une vie formidable, extraordinaire. Et ça, ça ne se dira jamais. Maintenant, je ne suis plus là. Je voudrais pas vous faire pleurer à mon tour.
J'ai eu une vie extraordinaire. Même quand je ne serai plus là, la larmichette. Vous avez compris qu'une belle course, je ne vous le déconseille pas, bien au contraire. J'ajoute que ça fait 4 fois que Danny Boone et Lynn Renault jouent ensemble. On les appelle maintenant le gang du Nord. 2006, c'était la première fois, c'était la maison du bonheur. Il y a eu les ch'tis, bien sûr, la ch'ti de famille. Aujourd'hui, une belle course. Et pour la suite, je leur souhaite autant de tournages, même plus, même 20 fois plus s'il faut.
Vous savez ce que mon père me disait ? Chaque colère est à coup de vieux, chaque sourire est à coup de jeune.
Ah, c'est bien comme phrase.
Ah, et moi j'aime beaucoup ce qu'elle dit aussi par rapport au fait qu'on n'ait plus envie de fêter son anniversaire. Quand plus on vieillit, plus on se dit « Ah, j'ai pas envie ».
Ah, moi non plus.
Et ben elle dit « Ben si, il faut justement fêter l'année de plus ».
D'accord.
Et d'être sur la Terre. Et moi, je trouve que c'est pas mal aussi de penser comme ça.
Vous avez fêté le vôtre ?
Alors oui, moi, je fête mon anniversaire. Bon, assez tranquillement, hein. Je fais pas des fêtes, mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire et je me suis dit, effectivement, une année de plus, c'est une année voilà, où on peut continuer à être avec les gens qu'on aime, faire ce qu'on aime dans la vie. Enfin voilà, j'aime aussi cette philosophie-là.
Si ça marche, cette pièce, vous serez là encore pour 2 ans, parce que la précédente, ce fut 2 ans à l'affiche.
2 ans à l'affiche, et les tournées dans pas de partout.
Michel Bernier, avec nous, on marque une pause, on reparle de cette pièce. Je préfère qu'on reste ensemble, on est ensemble, à tout de suite.
Philippe Vandel.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Michel Bernier, elle est sur la scène du Théâtre des Variétés. Elle n'est pas seule avec Olivier Sitruc. Vous incarnez ce couple un peu moderne, un peu à l'ancienne. Il y avait Je préfère qu'on reste amis. C'était la première pièce écrite par Laurent sur ce thème Ruquier il y a 6 ans, qui a cartonné 600 représentations. Vous revenez pour Je préfère qu'on reste ensemble. J'ai tout raconté, sauf ceci, c'est que le nouveau travail que Claudine et Valentin ils se sont lancés dans un outrail. J'étais parti sur une très mauvaise phrase grammaticalement.
Oui, ils se sont lancés dans un karaoké. Voilà. Ce qui permet. Voilà, parce que Laurent sait que j'adore chanter, j'adore la variété depuis toujours. Et il l'avait déjà fait dans Je préfère qu'on reste amis. Donc là, évidemment, l'endroit, le karaoké, est idéal à la fois pour raconter effectivement comment ça se passe quand on travaille ensemble entre l'intimité et de voir des gens toute la journée et d'être exposé. Je dirais ce qui doit être assez difficile. Et puis en même temps, effectivement, le fait que les chansons servent de message.
Ouais.
C'est-à-dire que ça, c'est l'idée de Laurent qui est géniale.
Il y a un petit peu ça dans le film de On connaît la chanson.
Voilà, exactement.
Ou dans le film de René.
Oui, tout à fait. Et c'est le côté, quand j'ai envie de te dire un truc que je ne sais pas comment le faire, ben je le dis avec des chansons.
Alors, je n'allais pas passer tous les titres et puis je ne veux pas spoiler le récit. Mais à un moment, votre personnage, Claudine, part en Italie. C'était le plaisir de réentendre ce tube des années 80.
S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit danser le calypso dans un dancing avec vue sur l'Arno. Au milieu de la nuit, en catimini.
Vous pouvez le faire, hein? C'est un karaoké, vous pouvez y aller.
Oui,
C'est pour vous, Michel.
Je vais laisser l'original plutôt. Ouais.
C'est de qui? Je me souvenais plus du tout.
Lily Cube.
Lily Cube, et ça s'appelle Voyage en Italie. Ouais.
C'est extrêmement joyeux comme chanson, j'adore.
Elle est tellement agréable. Ouais. Mise en scène de votre complice.
Marie-Pascale Osterit.
Voilà, je suis content que ce soit vous qui prononciez son nom.
Je sais.
Avec qui vous avez écrit votre troisième one-man show Vivant Demain? Pourquoi elle? J'ai entendu Laurent Ruquier en dire le plus grand bien, oui, alors qu'il n'était pas obligé.
Non.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Marie-Pascale?
Marie-Pascale est une femme extrêmement attentive, intelligente. Elle a un sens du spectacle. Je pense qu'elle elle travaille les mises en scène, parce qu'on a fait Le Démon de Midi, on a fait Épaineride, on a fait Folamanda, on a fait Vive Demain, on en a fait plein de spectacles. Grand Cri d'amour et tout ça. Elle a une vision presque cinématographique de la mise en scène. Ce qui fait que ça donne toujours quelque chose de, au niveau des décors, au niveau de la façon de travailler, qui est vraiment... Elle va chercher au fond, c'est pas simplement on explose et on expose. Il faut aller chercher des choses un peu subtiles, un peu... Voilà. Et toute sa mise en scène est d'une grande intelligence. Et moi, j'adore me laisser faire parce que je sais que quand elle me dit quelque chose, même si je fais « Ah bon ?» je sais qu'elle a raison.
Alors, moi, j'ai lu la pièce, mais je ne l'ai pas vue, donc je ne connais pas la mise en scène. C'est un vrai karaoké. Ah. On voit un clip, il y a les mots qui défilent sur l'écran. Et est-ce que les gens chantent avec vous?
Ah, les gens chantent avec nous. Oui, oui, ouais, oui, bien sûr. Non, mais il y a des moments où, quand c'est plus du message, c'est pas obligatoirement le karaoké, mais moi, je chante Dja-Dja, et il y a Dja-Dja qui arrive sur l'écran, quasiment toutes les chansons.
Vous êtes arrivé ce matin, j'ai cru que c'était Aya Nakamura. Franchement, puisque vous en parlez...
Oh, Dja-Dja.
J'ai cru que c'était vous. Vous avez une chanson préférée ou pas?
Dja-Dja, parce que les autres, je ne connais pas.
Quelle menteuse! Je lui ai dit, est-ce que tu as une chanson préférée?
Ah non, mais non, mais je pensais à Yana Kamura. Non, 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 j'adore une chanson qu'on chante dans le spectacle, c'est J'irai où tu iras.
Vous savez quoi? Regardez ça, écoutez ça.
J'irai où tu iras, mon pays sera toi.
Ça, c'est une éclate.
J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe la
place. Ça, ça met une patate.
C'est vrai. Et mais c'est pas votre préférée, parce que votre préférée, c'est celle-là.
Mais ça, c'est tellement drôle, parce que ça donne vraiment le truc du karaoké. D'abord, on est au théâtre des variétés, donc c'est de la variété, donc
ouais, ça
me va très très bien. Mais c'est vrai que c'est toujours un. En fait, à un moment, il me dit. En fait, on chante Dja-Dja parce qu'il me dit oui, mais enfin, ouais, bon, ton répertoire, il est un peu vieillot, parce que c'est vrai que moi, j'aime les variétés d'avant, on va dire. Et là, je lui dis bon, mais j'ai du moderne, et elle trouve Ayana Kamura. Et donc, elle se lance dans une espèce de petite performance.
Et j'avais jamais pensé à ça avant de lire cette pièce. C'est d'être un enfer de tenir un karaoké, parce qu'on se paye tous les soirs les mêmes titres.
Voilà, mais
c'est
ce qu'elle dit dans la pièce.
Oui,
c'est-à-dire qu'à un moment, là, c'est fatigant à écouter massacrer tout le temps Barracuda, Alice Aglis et la 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 la, qui au début elle aimait bien, puis après maintenant dès qu'elle entend les premières mesures, elle a envie de s'ouvrir les veines. Voilà.
Ah bah tiens, justement, si vous aimez bien, si la pièce, la précédente, avait tenu 2 ans à l'affiche. On dit que le théâtre marche jamais à la télé. 5 millions de téléspectateurs, 19% de part de marché. Donc pour dire que c'est pas n'importe quoi cette pièce. Si la pièce dure 2 ans, vous allez la faire 2 ans? Ou est-ce que vous allez quitter la pièce?
Ah non, non, non. Moi, je suis très... Alors moi, j'aime tellement ce que je fais.
C'est vrai.
Et puis, la comédie sur scène, vraiment, franchement, c'est un tel bonheur, quoi, de faire rire les gens. Cette complicité-là, on la trouve nulle part ailleurs. Ce qui fait que je reste. Ah oui, je reste.
Michel, je vais le dire, le sens de ma question, pour qui ne connaît pas très très bien le théâtre et sa mécanique, souvent les stars jouent une pièce 2 ou 3 mois pour remplir la salle, et ensuite la pièce part en tournée, quelqu'un d'autre dans le rôle titre. C'est pour ça, par exemple, que Alexis Michalik veut pas de vedette dans sa distribution pour être certain de les garder du début à la fin. Vous restez, vous êtes une vedette et vous restez, vous êtes la tête d'affiche,
moi,
et vous serez là.
Je reste, j'aime ce que je fais et j'adore partir en tournée, revenir, aller, venir. Moi, j'ai l'impression de ça me tient en vie, enfin ça me donne ma jeunesse, en fait, tout ça.
Vous allez devenir zinzin à écouter 2 ans de suite les Lacs du Connemara. Je vous dis juste ça. Il faudra un très très bon psy. Michel Bernier, reste avec nous. On marque une courte pause. On parle BD aussi avec Sébastien Bordonnave. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
en compagnie de Michel Bernier au Théâtre des Variétés. Je préfère qu'on reste ensemble. Votre premier gros succès, c'était grâce à une BD, la BD de Florence Sestac.
Oui, qui avait eu le Grand Prix à Angoulême d'ailleurs, une des seules femmes à cette époque-là, une des rares on va dire, qui avait eu le Grand Prix. Et donc on avait adapté cette BD en one man show, Le Démon de Midi, et c'est devenu le succès que tout le monde connaît.
Voilà. Et elle a été surprise quand vous êtes allée la voir. Elle ne pensait même pas qu'une BD puisse devenir un spectacle.
En fait, c'est Marie-Pascale Austerite dont on parlait tout à l'heure. Bah oui,
encore,
à l'époque, elle travaillait au développement de scénario à TF1 et j'avais eu l'occasion de la rencontrer. On était devenus amis et on avait envie de travailler ensemble. Et puis elle avait eu cette BD entre les mains et elle me dit, écoute, j'ai lu ça, il y a vraiment un truc à faire, c'est super drôle et en même temps émouvant et en même temps ça part quand même d'un sujet. En plus, bon, ça croisait un peu ma vie, donc c'était un peu touchy tout ça. Et donc on a pris rendez-vous avec Florence, on s'est rencontrés dans un café et elle était même étonnée en se disant mais qu'est-ce qui se passe, et on lui a dit voilà, on aimerait l'adapter en one man show, et elle a été formidable parce qu'elle a dit mais moi j'y connais rien, donc faites ce que vous voulez. Et donc voilà, ça a été 4 ans de bonheur.
Vous y connaissez en BD, vous êtes fan de BD?
Alors j'étais moi plus fan, alors en tant que fille de professeur Choron, moi j'étais pas trop BD, j'aimais
plus
dessin, Rézère, tout ça, Volinsky, c'était mon éducation.
En même temps, les BD de Rézère sont extraordinaires.
Oui,
il était extraordinaire en dessin.
Non, mais Rézère, c'était un génie.
Hors norme, on est d'accord.
Absolu.
Hors norme.
Ce qui me fascinait, c'était de voir que une idée pouvait se compacter sur une page. Ça, avec tac-tac, deux personnages, tout ça, et là, et l'éclat de rire.
Et une émotion sur 2 cm carrés. Talent inégalé.
Inégalé.
Sébastien Bordenave.
Bonjour.
Vous l'avez deviné, on va parler BD. Votre BD du jour s'appelle Dans la tête de mon ado. Question simple, qu'est-ce qu'on trouve dans la tête des ados à part du jambon coquillette?
Je me disais sûrement des trucs qu'on ne peut pas raconter en radio. En tout cas, quand j'ai reçu et lu cette BD publiée chez Vent d'Ouest de Soledad Bravi et Agathe Delastic qui s'appelle Dans la tête de mon ado, j'ai appris plein de choses sur cette espèce pas du tout menacée qu'on appelle les ados. On peut les observer dans les cafés à 15 autour d'une table de 4. Ou alors,
c'est vrai.
Ou alors chez soi, vous savez, c'est celui qui laisse ses couverts sales sur le lave-vaisselle parce qu'on ne sait pas dans le lave-vaisselle si c'est propre ou pas. Généralement, dit ça.
Ça sent le vécu.
Exactement.
Hein, je connais.
Alors, au-delà des clichés, il faut bien admettre que parler à un ado, c'est toujours un joli moment d'écoute et de partage.
Putain, frappe, merde.
Dans ta chambre, je frappe. La salle de bain, c'est pour nous deux. Tu sais quoi? Tu te masturbes?
Non, c'est bon, l'intimité, la pudeur, tu connais, là.
Oh là là.
Mais tu me fais chier. Tu me fais chier. Tous les jours, tu me casses les couilles avec ta branlette. Putain, on peut plus se branler tranquille dans cette maison.
Voilà. Sympathique.
Ouais. Extrait des beaux gosses de film.
De Riyad Sattouf, c'est ça?
Exactement. Ouais. D'après l'Organisation Mondiale de la Santé.
Mais ils font pas que ça non plus, hein, quand même.
Non, c'est vrai aussi.
Non, ils boivent aussi.
Donc l'adolescence peut scientifiquement commencer dès 9 ans et se termine généralement vers 22 ans.
Dès 9 ans,
ouais. Bon, pour certains.
Elle peut commencer.
Elle peut. Récemment, les nouvelles techniques d'imagerie scientifique ont permis d'observer la maturation du cerveau chez les ados au moment de la puberté. Et on sait maintenant que les différentes zones du cerveau ne se développent pas toutes en même temps. C'est-à-dire que quand vous voyez, votre ado qui tout d'un coup s'est développé du nez, mais pas du reste du visage, en fait, son cerveau, c'est pareil. Par exemple, sa zone limbique, qui est situé au centre du cerveau, se développe plus rapidement, ce qui explique
Continuez.
Ce qui explique pourquoi l'ado a du mal à gérer ses émotions. Elle a parfois des réactions du style
Oh, c'est trop marrant. Je suis hyper vénère. Ah, j'ai le seum. Ah, je suis choquée. Trop choquée.
Alors le seum, ça veut dire la rage. Sachez que ça vient de sem en arabe, qui signifie venin. À la fin de la BD, il y a un petit lexique pour apprendre à parler l'ado. Alors, c'est toujours bien de réviser. Petit coup, oui. Michel Bernier.
Oh là.
Alors, c'est quoi les bails?
Les bails.
Quand on
sais
dit
pas.
C'est quoi les bails?
Moi, je sais pas. Je sais pas.
C'est quoi les nouvelles? C'est quoi
d'accord.
Les.
C'est, d'accord.
Voilà. Quoi de neuf, quoi. Voilà. Un mec canard. C'est
moi, je sais.
Ça doit être un peu. Il est naze, un peu, non?
Non, un mec canard, c'est un mec qui fait tout, qui fait tout pour sa nana.
Exactement. Qui est gentil. Alors, on dit plus.
C'est le mec soumis. Et comme c'est une critique pour un garçon d'être soumis, on dit c'est un canard.
Exactement. Bravo.
Ah, bien,
alors,
bravo.
On dit plus sa nana, par contre, on dit sa baée.
Alors BAE, on dit BAE, before anyone else, celle qui passe avant tout le monde.
Oh là là,
c'est beau.
La moula, c'est quoi la moula?
Oh bah la moula, c'est tellement connu.
C'est la fête, non?
Non, la moula, c'est l'argent. C'est exactement. Il y a même un site internet des influenceurs qui est à Dubaï.
On voit que mes ados, ils sont plus ados depuis longtemps.
Il y a un site internet à Dubaï qui fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle la Moula Shop. Et donc il y a des gens qui sont fait arnaquer par ce site. Enfin, ils le disent. Je dis pas qu'ils sont fait arnaquer. Je veux pas un procès. Voilà, la Moula Shop.
Ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi le cannabis. Donc faut faire attention.
Ah, j'ignorais, tu vois.
Il y a tout un lexique.
On peut aussi se faire arnaquer.
Oui. Il y a tout un lexique comme ça dans la BD. Alors à quoi ça sert de parler l'ado? Et bah après, normalement, on peut comprendre les paroles d'un groupe comme PNL. Écoutez.
Je la passe la tête, la pécou, la vie sert tes regrets devant ton bébé. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque un peu trop peiné. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, tu suces les pectoraux gainés.
Voilà.
Non mais d'accord.
Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, tu suces mes pectoraux gainés. Même quand il y a des mots qu'on comprend, on comprend pas forcément le sens. C'est très imagé. Alors, il y a d'autres infos étonnantes dans cette BD. Je sais maintenant pourquoi les ados se couchent beaucoup plus tard que nous. Et bah c'est à cause de la mélatonine, l'hormone naturelle, qui dit à notre cerveau qu'il est l'heure d'aller se coucher. Donc du coup, elle baisse la température de notre corps pour nous aider à ça. Et bah, chez l'ado, ça arrive, mais 2 heures après nous, ce qui explique pourquoi il se couche naturellement plus tard, ceci expliquant cela. Dans cette BD, les ados en prennent pour leur grade, mais aussi les parents. Grâce à la BD, vous pourrez enfin savoir si vous êtes un parent relou.
Sachez que généralement, on est toujours à un moment...
On rentre dans la case du parent
relou. Du relou.
Donc sachez que le parent relou, il chante des chansons d'ado genre Aya Nakamura.
Évidemment.
Le parent relou, il dit wesh.
Ah moi je dis pas wesh.
Je dis pas wesh. Non. La maman relou, elle dit quand tu seras morte, tu pourras m'en payer. Quand je serai morte, tu pourras m'en payer. Comme ça, je serai toujours avec toi.
Ah non, ça non, je veux pas dire ce genre de choses.
Le papa relou, il dit c'est pas comme ça que tu vas avoir ton bac.
Oh, on l'a tous un peu dit ça.
Ou alors il dit t'as un copain. Il dit ça le papa relou.
Ah oui.
Voilà. Et la maman relou aussi, il paraît qu'elle se promène nue dans la maison en disant oh ça va.
Non,
d'accord. Voilà, plus sérieusement, si vous avez envie de passer un moment sympa avec votre ado, et lisez cette BD à 4 yeux. C'est Dans la tête de mon ado, on rigole et on apprend plein de trucs. C'est publié chez Vent d'Ouest. Là, il y a un karaoké de Aya Nakamura.
Ouais, c'est Aya Nakamura quoi. Voilà.
Merci beaucoup Sébastien Bordenave. J'ai appris récemment ce qu'était un PNJ, vous savez ou pas?
Ah non.
PNJ, vous savez?
Non, pas du tout.
PNJ. Ça veut dire un personnage non jouable. Ça veut dire que t'es un tocard. On en parlera dans la séquence jeux vidéo avec Jean Z la prochaine fois qu'il vient. Merci Sébastien, vous restez avec nous. Michel Bernier.
Avec plaisir.
Culture Média continue, on apprend des choses dingues. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Michel Bernier, elle est sur la scène du théâtre des variétés. Je préfère qu'on reste ensemble. C'est vous et Olivier Sitruc.
Olivier Sitruc.
On n'en a pas encore parlé.
Oui, mais j'ai envie d'en parler.
Parce que votre précédent camarade de jeu...
Oui, c'était Frédéric Diefenthal. Mais maintenant, Frédéric, il est sur une série sur TF1 qui s'appelait Si tout commence, qui lui prend énormément de temps. Ouais. Et il s'est installé un peu là-bas dans la région. Donc, c'était de plus en plus compliqué pour venir jouer à Paris, repartir. Donc, j'embrasse fort mon Frédéric. Et voilà, il y a Olivier Sitruc qui prend la relève. Et on ne se connaissait pas. Et vraiment, c'est une belle rencontre. Ça a accroché tout de suite. On s'est amusé immédiatement. C'est un partenaire de rêve. Vraiment, je suis très gâtée. Et en plus, il est beau comme un camion bâché, comme disait ma grand-mère.
C'est important.
Oh oui, ça fait du bien. Moi, plus je vieillis, plus j'ai les beaux mecs autour de moi. C'est bien, non?
Dingue, j'ai jamais vu le show sous cet angle. Votre dernier one-man show vivement demain, vous allez le rejouer ou vous êtes passé à autre chose?
Ah non, ça c'est fini. Oui, on a fait la captation qu'on a fait à Salle Playel. Et puis il a commencé à être diffusé, était sur Canal, machin, c'est comédie, etc. etc. Voilà, vive demain et a fait sa vie.
Il y avait déjà des chansons. Il y avait le truc à plume, une reprise d'Orelsan.
Voilà.
Et est-ce que c'est vous qui avez demandé à Ruquier de mettre un karaoké ou de mettre des chansons aux variétés?
C'est lui tout seul parce que en fait, j'avais tellement aimé jouer la première que je lui disais tout le temps, mais pourquoi on fait pas une suite? Ça se fait jamais au théâtre de faire une suite. Alors ça a titillé, puis voilà quoi. L'autre fois, on se disait, et si on en faisait une troisième après encore?
Ouais. Il y a tout le temps des suites, ça n'arrête jamais. La stagiaire, ça va revenir.
Voilà, on revient le 27 septembre, là, avec la saison 8, voilà, c'est ça.
Oh là là.
Oui, non, mais...
Saison 8 déjà.
Saison 8 déjà, oui.
Parce que j'avais déjà une question pour la saison 1, mais là, je peux la replacer pour la saison 8. Non, parce que moi, ce que j'aime, c'est le côté inclusif. C'est la seule stagiaire qui a passé l'âge de la retraite.
Mais on s'en fout. Je pense que c'est pas ça le problème, en fait. Ce qui fonctionne dans la série, c'est que, effectivement, ça reste une femme libre. Étant donné qu'elle est stagiaire, elle, la hiérarchie, elle s'en fout un peu. Donc, même si elle met un pied et les pieds dans le plat, c'est pas très grave. Et puis, en même temps, c'est rigolo de voir justement une femme qui pourrait, effectivement, être à la retraite d'un boulot qu'elle n'a pas eu. On dirait le prince Charles qui est devenu roi.
C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Vous avez raison. C'est Charles III.
Donc pourquoi pas? Je suis stagiaire 1. Et puis, ce qui fonctionne, c'est ce patchwork entre le polar et la famille, les histoires perso, et puis le bonheur que c'est d'être devenu une famille, en fait, à force. Hein, voilà. Avec Antoine Hamel et Philippe Lelièvre, entre autres.
TF1, la stagiaire sur la 3. TF1 a diffusé l'an passé un épisode de Joséphine Ange Gardien avec vous, Mimé Mathy, Isabelle de Botton.
Ouais, c'est les trois
anciennes complices du trio Les Filles. Aucun rapport, mais Isabelle de Botton a un petit message pour vous.
Coucou ma grande Mimi, il te va drôlement bien ce titre. Je préfère qu'on reste ensemble. La suite de Je préfère qu'on reste amis. Parce que c'est tout toi ça, la fidélité, en amitié, en amour, au travail. Tu es capable d'aimer à la folie et aussi de pardonner à la folie. Et ça, c'est vraiment fort. Michel, malgré une vie professionnelle ultra occupée, elle est là. Dans les beaux jours, aussi bien que dans les jours sombres ou difficiles. Michel, c'est un roc, c'est une ancre, un phare vers qui nous sommes nombreux et nombreuses à nous tourner dans la tempête comme dans le bonheur. Je t'embrasse de tout cœur.
Non, c'est impressionnant, hein.
Ouf, je peux pas pleurer quand même. Merci mon Isabelle, merci.
Elle dit que vous êtes capable d'aimer à la folie et de pardonner à la folie.
Oui, ben, j'avais entendu un psychanalyste dire que le pardon, c'était la liberté. Et quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, mais c'est tellement juste. Je pense qu'à partir du moment où on arrive à pardonner, on enlève les boules qu'on a dans la gorge et dans le ventre et qui vous rendent la vie impossible. Parce que après, on devient un espèce d'envie de se venger, d'être toujours dans une espèce d'aigreur. Et je trouvais que c'était une phrase qui correspondait bien à la vie en général. Je pense qu'à un moment, il faut avoir la possibilité de se libérer de ça. Voilà.
Dernière petite question. Oui. On sait que les comédiens, ils pensent, je vais revenir pour avoir du sourire. Oui. Je préfère qu'on reste ensemble. On sait qu'ils pensent toute la matinée, toute la journée à la pièce le soir. Mm. Mais après, comment ça se passe? Est-ce que c'est comme les joueurs de foot? Parfois, ils n'arrivent pas à dormir après un match.
Ah, c'est comme si on avait. Un jour, on m'avait raconté que les cyclistes du Tour de France, qui étaient un peu on leur mettait de l'OPA, je sais pas quoi là.
L'OPO.
L'OPO, voilà, je sais pas quoi. Et qu'ils avaient dans leur chambre d'hôtel des vélos d'appartement pour continuer à pédaler.
Bien sûr.
Donc, ça me faisait hurler de rire qu'un cycliste continue à pédaler dans son Ibis à Bécon-les-Bruyères et pendant une heure pour pouvoir décharger tout ça. Et ben c'est un peu ça. En fait, on a du mal à rentrer. Enfin, c'est compliqué. Voilà.
Et avec les chansons, c'est encore pire, si j'ose dire. Parce que ça tourne.
Ah ben ça tourne. Moi, j'ai les chansons dans la tête toute la journée parce que je me dis, faut que ce soit bien, faut que ce soit juste, faut que ce soit si. Comme en plus, on vient de commencer, donc on est encore dans ces fragilités-là, quoi, évidemment.
Ça s'appelle Je préfère qu'on reste ensemble. Il y a un karaoké sur scène. Vous pouvez même chanter, pièce de Laurent Ruquier avec Olivier Sitruc et Michel Bernier, notre invité. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci à tous. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On va parler de ce petit livre, mais fort par le propos, signé Robin Blondeau, Netflix, L'aliénation. En série, que veut-il dire par là? Il va nous répondre. On sera aussi avec la question de la contraception. Est-ce que c'est exclusivement une affaire de filles? Ça aurait pu être un sujet de bienfait pour vous.
Et on le fera pendant quelques semaines.
Oui, il faut le faire.
Et la réponse est non. Hein.
Voilà, la révolution du caleçon, c'est menée par la réalisatrice Océane Lerouge. Elle sera avec nous. Et puis Jeanne Chéral, elle ne chante pas, mais elle poétise avec Couleurs primitives, un recueil de poésie, un nuancier d'amour à la limite de l'érotisme, voire parfois carrément érotique avec des dessins non pas signés par elle. Juste après le flash, donc Julia et Mélanie, bien fait pour vous, le programme du jour.
Bonjour Philippe, alors aujourd'hui on va se poser cette question, comment bien se préparer au vieillissement de nos parents? Vous savez, avec l'espérance de vie qui augmente, ben c'est une chance, mais on les a bien souvent plus longtemps avec nous. Alors comment bien prendre soin d'eux? Comment bien communiquer leur âge vieillissant avec eux? On fera le point dans l'émission aujourd'hui.
Et puis on va faire un grand écart d'âge puisqu'on va parler des bébés ensuite et du langage des signes. Vous savez que quand les bébés n'ont pas encore le langage, on peut leur parler à travers les signes.
Ma fille, elle faisait ça,
c'est
avec ses enfants.
Et c'est formidable.
C'est génial. Oui, Charlotte, elle faisait ça avec les enfants. Moi, au début, je regardais ça un peu ahuri. Et ben, ça marchait très, très bien.
Ben voilà.
Vraiment, c'était formidable pour communiquer. Non, mais
c'est... quelle notion elle arrivait à moi à faire passer?
Eh ben,
j'ai soif, j'ai faim.
Encore. Mmh. Merci.
Bien sûr.
Voilà, c'est des petites
vous
choses comme ça.
Vous connaissez ce signe?
Non, oui, c'est quoi? Il faut y aller.
Mais ça veut dire à demain. À demain 9h. Bonne journée. L'écoute d'Europe 1. Salut.